Mon fils, Sébastien, était chaste. Chaste. Alors, c'est vrai qu'on lui donnait la chasse, et il nous fallait avoir le pied léger, croyez-moi, beau et charmant comme il était, pour échapper à ses poursuivants. Toutes sortes de poursuivants. Mais lui était chaste. Chaste.
J'ai bien compris ce que vous disiez, Mrs. Venable.
Et vous me croyez, n'est-ce pas?
Oui, mais...
Mais quoi?
La chasteté, hein. Quel âge avait votre fils l'été dernier?
40 ans peut-être. Vous savez, on ne tenait pas vraiment le compte de nos anniversaires.
Et il vivait dans le célibat?
De façon aussi rigoureuse que s'il avait fait vœu de célibat. Cela paraît de la vanité, docteur. Mais j'étais vraiment la seule personne dans sa vie qui satisfaisait aux exigences qu'il avait vis-à-vis des autres. Très souvent, mon fils se séparait des gens. Il les congédiait parce que leur... leur attitude envers lui n'était pas...
Pas aussi pure que...
Que ce que mon fils Sébastien exigeait, oui, oui. Nous formions un couple légendaire. Les gens ne parlaient pas de Sébastien et de sa mère, ou de Mrs. Venable et de son fils. Non. Ils disaient Sébastien et Violette. Violette et Sébastien séjournent au Lido. Ils sont descendus au Ritz, à Madrid. Sébastien et Violette. Violette et Sébastien ont loué une maison à Biarritz pour la saison.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Dans un jardin tropical qui ressemble à une jungle archaïque, traversé d'inquiétants cris d'oiseaux, deux femmes s'affrontent autour de la mémoire d'un mort. Pour la mère endeuillée, l'implacable Violette Venable, clouée dans un fauteuil roulant depuis la disparition de son bien-aimé Sébastien, celui-ci était un poète, chaste et tout dévoué à ses idéaux. Catherine, sa jeune cousine, déjà fragile psychologiquement et qui l'a accompagnée dans son dernier voyage, en dresse en revanche un portrait bien plus trouble, celui d'un prédateur sexuel que ses proies auraient fini par tuer et dévorer. Entre les deux, un psychiatre, le docteur Sugar, tente de faire émerger un récit crédible de la mort de Sébastien avant d'accepter de pratiquer sur Catherine, à la demande de sa tante, une lobotomie qui, espère-t-elle, la réduira enfin au silence. Pour parvenir à ses fins, Mrs. Venable utilise sa fortune afin d'obtenir la soumission de la mère et du frère de Catherine, tandis qu'elle promet au docteur Sugar une subvention dont il a besoin pour ses recherches. Tennessee Williams a écrit soudain l'été dernier, en 1958, alors qu'il se débattait lui-même dans une analyse avec un thérapeute qui tentait de le guérir de son homosexualité. Dans cette pièce poétique et cruelle qu'il décrivait comme une allégorie, une fable sur l'existence, il utilise toutes ses obsessions, le sud poisseux, le sexe refoulé et honteux, la folie, lui dont la sœur avait subi une lobotomie, et aussi l'avidité des pays riches qui exploitent les populations du reste du monde. En 1959, Mankiewicz en fit un film intense, avec Catherine Hepburn, Elizabeth Taylor, Montgomery Clift, un film que Williams détesta, le trouvant trop réaliste. Retour au texte originel et aux indications de l'auteur pour Stéphane Braunschweig, dont c'est la première et très belle mise en scène en tant que directeur du théâtre de l'Odéon. Il fait évoluer ses acteurs, dont les formidables Luce Mouchel et Marie Raymond, dans ce jardin vénéneux où le bien et le mal se mélangent, chaque personnage comme enfermé dans sa propre vérité, petite mouche piégée par d'énormes fleurs carnivores. Stéphane Braunschweig est aujourd'hui l'invité de l'humeur vagabonde.
Is there a light you have inside you can't touch? A looking glass can only show you so much. Follow the signs, slowly but steady, don't rush. The day will come when you're ready, just trust. Dancing on the astral plane, holy water cleansing rain, floating to the stratosphere, brought me here, you see so clear. Is there a way for you?
dancing on the Astor plane. Holy water cleansing rain, floating through the stratosphere. Blind, but yeah, you see so.
Eh oui, c'était le jardin de Sébastien. Le nom latin des plantes a été imprimé sur des étiquettes fixées sur les plantes, mais l'encre commence déjà à s'effacer. Celles-là, là-bas, sont les plus vieilles plantes de la planète, survivantes de l'âge préhistorique des forêts de fougères géantes, quand les êtres vivants avaient encore des nageoires et des écailles. Bien sûr, dans ce climat semi-tropical, certaines des plantes les plus rares, telles que la Vénus attrape-mouche... Vous savez ce que c'est, docteur, la Vénus attrape-mouche?
Une plante insectivore?
Oui, elle se nourrit d'insectes. Il faut la garder sous cloche de verre entre le début de l'automne et la fin du printemps. Et lorsqu'elle était sous cloche, mon fils Sébastien devait lui procurer des mouches du vinaigre qu'il faisait venir à grands frais par avion d'un laboratoire de Floride qui utilisait ces mouches pour des expériences de génétique. Moi, je ne peux pas faire ça, docteur. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Ce n'est pas l'argent, c'est...
L'effort.
Oui. Alors, adieu. Vénus attrape-mouche. À tant de choses, adieu.
Bonjour Stéphane Brajweg.
Bonjour.
On vient d'entendre l'une des premières répliques de cette mise en scène de Soudain l'été dernier de Tennessee Williams que vous mettez en scène à l'Odéon. On est dans ce jardin qui fait l'objet de votre part d'une scénographie absolument étonnante, un jardin dévoré de cris d'oiseaux avec des plantes énormes. On a l'impression, en regardant cette première vision que l'on a de votre mise en scène, que ce jardin est probablement l'axe autour duquel tournent les personnages, qu'il a été aussi pour vous comme le point de départ de cette scénographie, peut-être pas si évidente que ça pour une pièce datée, une pièce lointaine, une pièce si éloignée de vos auteurs de prédilection, les Nordiques.
Il y a beaucoup de questions dans votre...
Oui.
Première question. Ce jardin, d'abord, c'est vrai que Tennessee Williams décrit que la pièce se passe dans ce jardin. En fait, un jardin à moitié abandonné parce que c'était le jardin de Sébastien, que Sébastien est mort l'été dernier et donc plus personne peut s'en occuper, et notamment la mère qui, comme vous l'avez dit, est affaiblie suite à une attaque, enfin un AVC ou quelque chose comme ça. Du coup, elle peut pas vraiment s'en occuper. Et c'est un jardin tropical un jardin qui a quelque chose d'un peu monstrueux parce qu'il est, c'est des plantes géantes. C'est, il y a une didascalie, c'est une indication scénique au début de la pièce où Tennessee Williams dit que c'est comme un jardin d'avant la création de l'humanité, comme on l'a entendu quand les êtres humains n'étaient pas encore là. Il n'y avait que des nageoires, des ailes, des écailles. C'est-à-dire un jardin où on est dans la cruauté de darwinienne, si vous voulez.
Et qui ressemble au sud des États-Unis, parce que c'est aussi une pièce très ancrée dans
absolument.
Dans ce sud.
Donc on a ce jardin, et au début je voulais m'en passer. En fait, je m'étais dit, quand j'ai commencé à réfléchir à la pièce, je me suis dit, bon, finalement, ce jardin, est-ce que c'est pas un petit peu anecdotique ? Bien sûr, ça fait partie de l'univers fantasmatique de ce poète, cette façon de se projeter dans un monde où il n'y a pas d'humain. Enfin bon, évidemment, ça fait rêver, mais j'étais un peu, j'y allais un peu à reculons par rapport à mettre en place ce jardin sur une scène. Et puis petit à petit, ça s'est vraiment imposé comme une nécessité, la nécessité d'avoir cet endroit où il y a quand même quelque chose d'à la fois très physique, très charnel. Et le théâtre de Tennessee Williams, c'est une pièce où les gens parlent, il n'y a pas beaucoup d'action. Je veux dire, on parle pour savoir si on va pratiquer une lobotomie à la fin de la pièce. On évoque le passé, on n'arrête pas de parler de ce personnage absent. Et pourtant, c'est quand même un théâtre charnel. Et j'avais besoin, je pense, de ce jardin pour ça, pour cette dimension. Et puis, parce que justement, ce personnage de Sébastien est absent, et le jardin, c'est Sébastien, en fait. D'ailleurs, la première image, quand le rideau se lève, c'est la lumière fait plus exister même une sorte de jardin froid, un jardin mort, un jardin abandonné. Petit à petit, quand les personnages vont rentrer en scène, ils se réchauffent, des couleurs chaudes apparaissent, et puis après il y a encore d'autres transformations. Mais au tout début, je voulais saisir les spectateurs avec l'image d'une sorte de corps organique qui serait déjà le corps mort de Sébastien. Et j'ai l'impression que ce décor, en tout cas cette forêt sur scène, nous aide à en permanence sentir la présence de Sébastien.
En le voyant, ce jardin, quand le rideau se lève à l'Odéon, Stéphane Brajek, j'ai pensé qu'il y avait eu déjà un jardin important, même s'il était à moitié masqué dans votre scénographie, c'est celle du Canard Sauvage.
Oui, il y avait la forêt
voilà,
de sapins.
Il y avait une forêt, et là, le jardin a envahi tout l'espace, mais il y a ce sentiment, alors c'est peut-être le lien avec Ibsen ou d'autres auteurs que vous avez pratiqués, c'est ce côté l'humain dans la nature. Est-ce qu'il a sa place? Est-ce qu'il est rejeté? Est-ce qu'il va mourir dans cette nature?
Oui, savoir aussi si la nature c'est un paradis perdu ou un enfer en train d'advenir.
Mais vous faites un lien plus clair que ça avec Ibsen, O'Neill. Vous voyez vraiment une sorte de filiation avec Tennessee Williams?
Alors je pense que le théâtre d'Ibsen, c'est un peu une matrice pour tous les grands auteurs, enfin de Pirandello à Tennessee Williams, en passant par O'Neill. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui explore les tréfonds de l'âme humaine, on va dire, mais sans les séparer de questions aussi sociales, en fait. C'est-à-dire, chez Tennessee Williams comme chez Ibsen, on explore la psyché, mais toujours dans un contexte socialisé. Enfin, ça, c'est important. Il y a une critique sociale, une critique morale, mais toujours reliée avec des questions psychiques. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'aime bien, à travers ces auteurs, essayer d'aborder la complexité de l'humain, et c'est pas en supprimant une dimension, que ce soit la dimension psychologique ou la dimension sociologique, qu'on touche à la complexité. Vous voyez, aujourd'hui, on a toujours l'impression que les choses s'expliquent soit par la sociologie, soit par la psychologie. Et en fait, je crois que le théâtre, c'est le bon endroit pour réarticuler les choses, pour montrer que la complexité, elle s'appuie sur des analyses diverses et complémentaires.
Alors, je le disais au début, c'est vrai qu'on se souvient surtout du film de Mankiewicz, qu'on a tous vu, qui était pour nous un film absolument merveilleux, formidable, passionnant, avec de très bons acteurs. Bon, Tennessee Williams, je le détestais parce qu'il disait que la fin, notamment, bah, au cinéma, il fallait aller vers une fin plus heureuse et que lui, avait dit que c'était un contresens par rapport à sa pièce, qui est beaucoup plus sombre, qui ne se termine sur rien, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il y a dans le film et dans la pièce, un moment inouï, c'est le moment où la vieille Mrs. Venable raconte le moment où ils sont partis en vacances sur un voilier dans des îles enchanteresses, et en fait que son fils, le délicat Sébastien, a passé des jours et des jours à regarder les bébés tortues se faire dévorer par des oiseaux rapaces.
Une fois par an, la tortue de mer femelle sort de la mer équatoriale et vient se traîner sur la plage de sable brûlant d'une île volcanique, pour aller creuser un trou dans le sable et y déposer ses œufs. C'est une entreprise longue et pénible, hein, d'aller déposer les œufs au fond des trous creusés dans le sable. Et lorsqu'elle a terminé, la tortue, épuisée, retourne à grand-peine jusqu'à la mer. Elle ne voit jamais sa progéniture. Mais nous, nous l'avons vue. Sébastien savait exactement quand les œufs de tortue allaient éclore. Et nous y sommes retournés juste à temps.
Vous êtes retournés au...
Au terrible Zencantadas, oui. Cet tas de volcans éteints. À temps pour observer l'éclosion des tortues de mer et leur fuite éperdue jusqu'à la mer. L'étroite bande de sable, couleur caviar, était en plein émoi. Mais le ciel aussi était en émoi.
Le ciel aussi était en émoi.
Plein d'oiseaux carnassiers. Et le bruit que faisaient les oiseaux. Les horribles clameurs sauvages des...
Des oiseaux carnivores ?
Sur la bordure étroite et noire des Encantadas, tandis que les tortues de mer, à peine écloses, s'extirpaient des trous dans le sable et commençaient leur course vers la mer.
Leur course vers la mer ?
Pour échapper aux oiseaux carnassiers, qui rendaient le ciel aussi noir que la plage. Et le sable était vivant, vivant, avec les tortues de mer qui venaient d'éclore et qui fonçaient vers la mer, tandis que les oiseaux planaient et plongeaient pour attaquer. Ils planaient et plongeaient en piqué pour attaquer. Ils descendaient en piqué pour aller fondre sur les bébés tortues, les retourner sur le flanc, les ouvrir, arracher leur chair et la manger.
Avec les voix de Luce Mouchel et de Jean-Baptiste Anoumont, on vient d'entendre Stéphane Brajbec, comme le jardin au début, cette scène qui, en principe, n'a pas d'intérêt pour l'explication de la mort de Sébastien. En fait, c'est aussi une scène très importante pour Tennessee Williams. Il a écrit, en fait, une pièce, et d'ailleurs, il y a une petite réplique dans la pièce. On dit, c'est une histoire vraie, une histoire du monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est vraiment l'allégorie aussi pour lui, par-delà le fait divers de la mort d'un homosexuel. C'est le monde tel que Tennessee Williams le voyait, cette espèce de dévoration des uns par les autres.
Oui, aussi bien sur le plan là aussi social que amoureux, que relation mère-fils. C'est effectivement ce thème de la dévoration. Et c'est vrai que c'est cette image des oiseaux carnassiers qui vont manger les bébés tortues qui courent sur la plage, tous ces petits fragiles qui se font bouffer par les féroces. C'est évidemment une image très forte. Elle arrive au tout début de la pièce. Peut-être le spectacle, il y a eu 5-6 minutes avant qu'on entende cette vision finalement qu'a eu Sébastien, qui l'a marqué, qui le fascinait, et où il finit par dire « Là, j'ai vu Dieu ». C'est-à-dire pas un dieu d'amour, pas un dieu de rédemption, mais un dieu cruel qui montre que les plus forts ont le pouvoir sur les plus faibles. Et c'est vrai que toute la pièce, finalement, on la lit à l'aune de cette image inaugurale de la pièce, et qu'ensuite, quand va revenir ce thème de la dévoration, ben on l'aura encore en tête, en fait. Parce que cette histoire, elle est racontée aussi dans le film. Mais ça m'avait moins marqué, en fait, et en la réentendant, enfin en la relisant, j'ai été vraiment saisi par cette image, enfin une sensation d'effroi qu'on peut avoir, et qui est finalement l'effroi qui se propage à l'intérieur de toute cette pièce. Et quand vous dites allégorie, c'est vrai, c'est une allégorie de l'existence. Ça en dit long sur les sensations finalement que Tennessee Williams devait avoir par rapport à la société de son époque.
Alors Tennessee Williams n'était pas toujours très chaud pour les adaptations cinématographiques, mais pour le théâtre, il était aussi un homme assez compliqué. On va écouter sa voix, c'était en 1959, donc juste une année après l'écriture de Soudain l'été dernier. Il était au micro d'un journaliste de la BBC.
Mais vous ne pensez pas que vous avez besoin d'écrire des pièces ?
Je n'ai pas dit que j'allais arrêter d'écrire des pièces. Je voulais dire arrêter de les monter et arrêter de penser à Broadway.
Quel est l'intérêt d'écrire des pièces qui ne seront jamais mises en scène ?
Eh bien, à la fin, elles le sont toujours. Certaines des meilleures pièces d'O'Neill ont été mises en scène près de 15 ans après qu'il les a écrites et 5 ans après sa mort.
Mais ne pouvez-vous pas faire en sorte désormais que vos pièces soient entièrement mises en scène selon vos propres critères, avec les acteurs que vous voulez et la direction d'acteurs que vous souhaitez ?
Non. Je suis une personne extrêmement malléable. Et n'importe qui, presque n'importe qui, peut me mener par le bout du nez. Et j'ai été mené par le bout du nez tellement de fois, vous savez.
Vous pensez qu'un metteur en scène peut apporter quelque chose à une pièce ?
Oh oui, il n'y a rien que je place plus haut au théâtre qu'un grand metteur en scène. Par exemple, Raymond Rouleau à Paris, sa mise en scène de la descente d'Orphée est presque la plus belle chose que je n'ai jamais vue.
Stéphane Braunschweig, est-ce que pour Soudain l'été dernier, en dehors de cette didascalie du début où il parle de ce jardin, est-ce que Tennessee Williams donne des instructions très très précises à ses metteurs en scène ?
Oui, il y a des indications scéniques qui permettent de suivre exactement la partition, là où il veut en venir. Et je dois dire que les ayants droit aussi de Tennessee Williams sont très sourcilleux sur le respect du texte et des indications, mais ça n'empêche pas qu'on puisse donner sa vision de l'œuvre. Déjà, bon, on a parlé du décor. Il se trouve que le décor dans le spectacle évolue, puisque enfin ce jardin va tout à coup se retrouver enfermé dans une chambre d'isolement psychiatrique, et puis ce jardin va aussi se dénuder à mesure qu'on va s'approcher peut-être d'une vérité qui n'est peut-être que la vérité de Catherine, mais qui est quand même une forme de vérité. Donc on peut accompagner le spectacle, on peut accompagner les structures profondes de la pièce avec de la mise en scène, avec la scénographie, et puis évidemment, le choix des acteurs est décisif quand on fait ce genre de spectacle, parce que c'est un grand théâtre pour les acteurs. Et c'est pas du tout pareil d'avoir une Catherine Hepburn qui était fantastique et d'avoir une Luce Mouchel qui est tout aussi fantastique dans un autre registre, ou entre Liz Taylor et Marie Raymond, ou entre Montgomery Clift et Jean-Baptiste Anoumont. Avec une autre distribution, on raconte une autre histoire, en fait. Je crois que Tennessee Williams n'aimait pas beaucoup le film, parce qu'effectivement le film notamment illustre tout le grand dernier récit de Catherine, et donc donne au spectateur l'idée que tout a réellement eu lieu, alors qu'il me semble que ce qu'il dit dans la pièce, c'est que c'est possible que tout ça ait eu lieu, mais c'est aussi possible que ça reste la vérité de Catherine, c'est-à-dire une sorte de vision, parce qu'il dit tout le temps, elle doit être, ça doit être comme des visions, hein, donc ça veut bien dire que des visions, ça a une dimension fantastique, fantasmatique et pas juste réaliste. Et ces visions, même si elles disent une certaine vérité du monde, elles ne sont pas pour autant complètement réelles. Et c'est cette ambiguïté sur laquelle il nous laisse, c'est cette ambiguïté qui nous apporte, je pense, une forme d'effroi, à mon avis, au théâtre. C'est ça qui est puissant, c'est ça qui est fort, c'est ce qui entraîne les spectateurs. D'ailleurs, les spectateurs, dans la toute dernière partie du spectacle, sont complètement, tenus en haleine aux paroles de Catherine. Si on avait la moindre illustration, on consommerait de l'image, alors que là, c'est pas du tout le cas.
Oui, mais d'ailleurs, le film a été, c'est un film, donc il est obligé d'être dans une certaine rationalité, alors que la pièce de Tennessee Williams, une pièce d'un poète, c'est une pièce qui ne nous propose pas une vérité, mais qui nous montre que chacun vit toujours dans sa vérité, qui n'est pas forcément compatible avec celle des autres. On va écouter encore un autre extrait, c'est le moment où le docteur Sugar pose des questions à Catherine et où on comprend qu'en fait, cette fragilité psychique, elle préexistait à Soudain l'été dernier.
Dites-moi, quels étaient vos sentiments pour votre cousin Sébastien ?
Il avait de l'affection pour moi, alors moi je l'aimais.
De quelle façon l'aimiez-vous ?
La seule façon qu'il acceptait, une sorte d'amour maternel. J'ai essayé de le sauver, docteur.
De quoi ? Le sauver de quoi ?
Et d'aller jusqu'au bout d'une espèce d'image qu'il avait de lui-même comme d'une victime offerte en sacrifice à une sorte terrible de
Dieu.
Oui, un Dieu cruel, docteur.
Quelle impression cela vous faisait-il ?
Docteur, mes impressions sont de celles qu'on a dans les rêves.
Votre vie vous apparaît comme irréelle ?
Soudain, l'hiver dernier, je me suis mise à écrire mon journal à la troisième personne.
Il s'est passé quelque chose, l'hiver dernier ?
The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world I know the hoochie coochie man. But you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know I'm here.
Mais qu'est-ce qui te prend ? Hein, petite sœur, tu veux nous ruiner ou quoi ?
Georges, tais-toi, tu fais peur à ta sœur.
Georges est très élégant.
Georges a hérité de la garde-robe du cousin Sébastien. Mais tout le reste est en attente de validation. Tu savais ça, que tout le reste est en attente de validation ? Et que Violette peut laisser les choses en suspens aussi longtemps qu'elle le voudra.
Mais où est tante Violette ?
Georges, reviens. Violette, descend de son côté.
Eh oui, tante Violette a maintenant un ascenseur.
Oui, elle a fait installer un ascenseur à la place de l'escalier de service. Et petite sœur, tu n'as jamais rien vu d'aussi mignon. Il est entièrement lambrissé de laque chinoise, noir et or, décoré avec de jolis petits oiseaux. Mais il n'y a de place que pour deux personnes à la fois. Georges et moi sommes descendus à pied. Il doit être en train de prendre son daiquiri frappé. Elle continue à prendre un daiquiri frappé. Tous les jours que Dieu fait. À 5 heures, très exactement. Par temps chaud. Petite sœur, la mort affreuse de Sébastien a bien failli la tuer. Elle va un peu mieux maintenant. Mais c'est une question de temps.
Les voix de Glenn Marrows, qui interprète George, le frère de Catherine, et Virginie Coleman, sa mère. Et l'on entend bien aussi, comme tout au long de cette pièce, Stéphane Brunschweig, que Tennessee Williams a écrit donc sur ce Sud 58, qui est encore très ségrégué, pas seulement par les couleurs, mais par la place dans la société, entre les riches et les moins riches. Et il y a aussi, tout au long de cette pièce, un accent mis sur l'argent comme moyen d'exister, comme moyen de monter dans l'échelle sociale, mais aussi comme moyen d'imposer une vérité. C'est l'arme de Mrs. Venable. Elle a de l'argent, donc elle peut faire écrire l'histoire comme elle l'entend.
Eh oui, ben ça a pas forcément changé. En fait, dans l'histoire, Sébastien a légué à Catherine et Georges, donc à ses cousins, l'équivalent de 2 millions de dollars d'aujourd'hui. Il faut savoir que eux, ils sont milliardaires, en fait, hein, Mrs. Venable et son fils. Le problème, c'est que Mrs. Venable pourrait faire bloquer cette succession. Et ça, c'est tout l'enjeu, et de savoir si cette Catherine, qui a toujours été fragile psychiquement, qui a toujours été une sorte de problème dans la famille, finalement, on le sent bien. Enfin, je trouve que même à l'écoute, on le sent bien qu'ils ne savent pas très bien comment la prendre, cette Catherine. Et maintenant, elle est à l'hôpital psychiatrique. Ils n'ont même pas été la voir. Ils disent que c'est l'hôpital psychiatrique qui ne voulait pas de visite. Mais enfin, on comprend bien qu'ils n'ont pas été la voir. Et on voit toute la difficulté que c'est d'avoir une personne dans la famille qui pose des problèmes et en même temps qui peut vous faire rater votre vie. Enfin, donc Georges, il est là à dire, mais moi, bon, toi t'es fichu, mais moi j'ai le droit d'exister. Et après tout, on peut penser que c'est cynique, on peut penser que c'est mesquin. Ça n'empêche pas qu'il a une forme d'amour de sa sœur. Moi j'ai l'impression qu'on le voit aussi, ça, mais il y a une dimension humaine très forte, parce que George, c'est aussi un petit peu Tennessee Williams, qui s'est reproché toute sa vie de n'avoir pas empêché la lobotomie de sa sœur. Cette pièce est issue de cette obsession, de cette culpabilité qu'il avait, et de même que la ménagerie de verre. Toute sa vie, il s'est assuré qu'elle pourrait rester à l'hôpital où elle était, donc il payait pour elle, etc. Donc même après sa mort, il s'était assuré en quelque sorte que Rose Williams pourrait subsister, en fait.
Mais Stéphane Brunschweig, avec cette pièce, vous l'aviez envisagée pour La Colline, et puis après vous avez pris la direction du théâtre de l'Odéon. Vous avez hésité à transporter l'idée de cette mise en scène de La Colline à l'Odéon. Est-ce que pour la première pièce que vous avez signée en tant que directeur, est-ce que c'était pour vous un choix évident ?
C'est jamais un choix évident d'ouvrir une période de direction, parce que on lit toujours ses choix comme des manifestes, et donc forcément j'ai hésité, mais j'ai, en réfléchissant profondément à la pièce, je me suis dit que d'abord c'était une pièce rare, on la voit pratiquement jamais,
peut monter beaucoup moins que La Ménagerie de Verre,
voilà, et puis une pièce qui nous raconte aussi des choses sur le monde dans lequel on vit, hein, et cette peur énorme, cette terreur que les personnages ont de la revanche des bébés tortues, on va dire. Est-ce que c'est pas ce à quoi on a affaire tous les jours?
Et j'imagine aussi que c'était très lié pour vous au choix des acteurs, parce qu'il fallait trouver des acteurs qui supportent ces rôles, notamment les deux rôles de femmes qui sont très lourds, elles sont tout le temps en scène, et puis c'est pas facile. Et j'ai vu que dans la distribution, beaucoup venaient aussi du TNS, que vous avez dirigé. Il y a des acteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, en dehors de Luce Mouchel et Marie Raymond. pour vous, c'était un choix aussi important de faire jouer...
Ben, j'étais très content de pouvoir faire une distribution avec 5 femmes sur 7 acteurs. C'est plutôt l'inverse en général, de pouvoir distribuer aussi des acteurs noirs comme Jean-Baptiste ou Océane. Je trouvais que c'était assez important dans cette pièce, même si c'est complètement paradoxal et incohérent du point de vue de la vérité historique de donner ce rôle de docteur un acteur noir.
En 58.
Mais en même temps, je pense que quand il dit à quel point cette vision des bébés tortues il peut comprendre que c'est une certaine image de l'existence, une certaine de l'expérience que l'on fait en tant que comme, dit par un acteur noir, ça sonne pas de la même façon que dit par un acteur blanc. Et puis, c'était l'occasion de retrouver Luce Mouchel, avec qui j'ai déjà fait plusieurs spectacles, notamment, elle était dans Le Canard Sauvage ou dans les pièces d'Arne Ligre, de donner un rôle à Marie Raymond, que j'ai eu comme élève il y a une dizaine d'années, et dont j'ai suivi le parcours aussi comme actrice, comme metteur en scène, avec qui je voulais travailler depuis longtemps. Et puis, d'autres acteurs, même qui ont des petits rôles, mais qui sont des acteurs que j'aime beaucoup, comme Boutaïna Elfekak, Virginie Colmain et Glenn Maros et Océane Kirati. Ils sortent tout juste de l'école.
Alors justement, il fallait faire entendre autrement que dans les extraits de la pièce les voix de ces deux actrices formidables qui interprètent Mrs. Venable et Catherine la Folle. Donc Perrine Malin, j'ai allé rencontrer Luce Mouchel et Marie Raymond. Bonjour Perrine.
Oui, bonjour. J'ai rencontré la mère prédatrice et la folle, Mrs. Violette Venable et Catherine Oly, pour comprendre comment elles avaient fait, toutes deux actrices, pour attraper ces deux personnages si singuliers. Nous avons tout de suite balayé, comme vous, Stéphane Brunswick, les références à Catherine Hepburn et Elizabeth Taylor. L'une n'a pas vu le film, l'autre il y a longtemps, et surtout le travail avec vous les a emmenés tellement loin que c'était quasi oublié. Alors comment donner chair à ces deux figures? Un personnage de théâtre, après tout, c'est d'abord et avant tout un assemblage de mots sur une page. Il y a les costumes, les talons, les accessoires, le fauteuil de Violette, la mer, mais la jungle tropicale, les voyages, la vision finale de Catherine, comment incarner ces images, les faire passer sur le concret d'un plateau de théâtre et quelles images mentales cela crée dans leur propre tête à elles deux d'actrices. Rendez-vous était donné parmi les lianes, les fougères et les plantes carnivores rouges dans la jungle de votre décor, Stéphane Brunswick, ce décor d'avant l'humanité au théâtre de l'Odéon. C'était à l'heure des rituels petits raccords que vous faites avec les comédiens le soir. J'ai retrouvé Luce Mouchel au bord du plateau, à l'orée de la jungle.
D'accord. Parce qu'il va falloir que je raconte à tante Violette ce qui est arrivé à son fils, hein, Cabeza de Lobo.
Chou, c'est pour ça que tu es là.
On commence donc le texte ici. On n'est pas à vue. Tout le truc où je décris le jardin, avec le jardin qui est laissé à l'abandon depuis que Sébastien est mort, les étiquettes dont l'encre commence à s'effacer, etc. C'est la partie de Sébastien qui est morte, quoi. Donc on arrive comme ça et on rentre. Voilà.
Sébastien a laissé à toi et à Georges.
Est-ce que pour vous il existe ce jardin? Ah oui, il existe totalement. Il m'imprègne, enfin, j'ai le même dans la tête, quoi. Je suis vraiment... Et puis ces espèces de lianes, là, qui pour moi, c'est des cordons ombilicaux. C'est très maternel, en fait, ce truc-là. Monstrueusement maternel. C'est comme les liens qui me tiennent, quoi, qui m'emprisonnent et qui, en même temps, me relient à mon fils. Donc c'est à la fois cauchemardesque et en même temps, il y a une espèce de mélancolie du cauchemar qui me plaît là-dedans.
Eh ben, vous remontez avec moi ?
Alors, installez-vous.
D'abord, on a commencé par des lectures et on est passé par beaucoup de pistes assez différentes pour arriver finalement à celle qui était, en ce qui concerne Miss Venable, quelque chose de très déterminé, de très peu de fioritures, très peu de digressions, une chose qui en devient même presque assez folle. Enfin, c'est ça qui touche à la folie, parce que tout ce qu'elle dit est extrêmement sérieux. Elle n'a même pas conscience elle-même des énormités qu'elle dit. Comme par exemple qu'elle formait un couple légendaire avec son fils. Enfin, pour dire ça avec un grand sérieux, il faut avoir dépassé un certain nombre de choses un peu bizarres. Elle a quelque chose d'implacable, de très dur. Elle est dans un corset quand même, c'est le corset du déni. Mais à l'intérieur de ça, elle se, elle s'amuse. Elle est quand même finaude, hein, c'est une manipulatrice quelque part. Enfin, il y a une immense liberté, mais dans une latitude très étroite. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a très peu de variations, même le corps, et tout ça est très tenu, très ténu. Mais à l'intérieur de ça, l'invention est minimaliste, mais elle existe, très forte. On sent que Stéphane cherche aussi toujours presque musicalement, il cherche une note, et ça c'est commun à tous ses spectacles quand il dirige. Mais là c'est différent parce que le travail était plus lyrique quelque part, il y avait plus de lyrisme dans le travail. Alors lyrisme ça veut pas dire qu'on fait des phrases qui chantent à tout bout de champ, mais peut-être quelque chose quand même de plus libre. Je pense que c'est lié à la teneur du texte, poétique dans ce qu'il raconte, dans le sens et puis dans la construction. C'était très plaisant,
s'il vous plaît,
ça.
Les portes de la salle sont ouvertes au public. Merci.
Il est à la fois très très pointilleux et très minutieux sur les mots. Comment faire ressortir tel mot, pas tel mot. Si on fait ressortir tel mot, alors on est à côté du sens. Bref, il est très très proche du sens. On a fait des filages assez tôt finalement. Et il disait là c'est bien, là tu y es plus, là tu y es moins. Mais pour moi, j'y étais pas encore, et je pense qu'il le savait aussi, et il laisse, là, pour le coup, il laisse le temps au temps, mais il savait que ça arriverait. Des fois, il suffit, même en 2 mois, il suffit d'un mot qui vous fasse décoller. Et moi, il m'a donné un mot un jour. Il m'a dit, elle est inaccessible. Son autorité vient du fait qu'elle est inaccessible. Et ça m'a vachement parlé, ça.
Alors, Marie, Raymond, le personnage de Catherine, dans Soudain l'été dernier.
Ça, vous avez remarqué ?
Quoi donc ?
Ben ça, les marques. C'est ce qui se passe quand on joue en talons sur un plateau mou.
Le contraste entre les talons, la petite robe et ça, la jungle où je dois quand même bouger, me mettre un peu dans l'arbre et tout. Finalement, c'est pas mal, c'est très bancal, mais ça contraste, je trouve, avec la féminité de Catherine qui adore en plus les beaux costumes, son cousin qui lui offrait des robes de Balenciaga, etc. Et sa manière complètement agitée, incontrôlable d'être. Donc en plus dans ce jardin-là, du coup ça j'aime bien moi.
Fallait jouer la folie, vous jouez la folie ?
Alors je sais pas du tout ce que c'est jouer la folie, je m'appuie plutôt sur plusieurs couches successives, donc il y a cette forme de nervosité que je m'explique parce qu'elle dit qu'elle a pas eu ses médicaments, qu'elle revient pour la première fois dans ce jardin, qu'elle va revoir pour la première fois sa famille et aussi Violette Venable. Donc il y a cet état très difficile à gérer, on imagine. Il y a un côté animal, un peu une sorte d'animal traqué au début du dialogue. En gros, ce côté un peu animal traqué, je trouve que c'est prise au piège dans ce jardin qui se referme sur elle. Voilà, ça, je trouve que c'est assez marquant comme image pour moi. Mais à aucun moment, je me suis dit, faut qu'elle ait l'air folle. Non. Ça reste opaque, ça pour moi c'est très important, ça reste équivoque. Et du coup, ça fait que c'est passionnant parce que j'ai l'impression d'une quête. Quand c'est des personnages comme ça, aussi profonds, avec tellement de couches, de sensibilités qui se rajoutent, on peut se raconter un milliard de choses. Et c'est un cadeau, quoi. Enfin, moi, j'étais tellement heureuse quand Stéphane m'a proposé ce rôle-là parce que justement, je me suis dit, mais avec ce rôle-là, je peux faire une plongée. J'en aurais pas fini. Je connaissais la pièce, en fait, et il savait que je la connaissais. Donc, on n'a pas trop parlé au début du personnage, de tout ça. Ça a été plutôt sous forme, un peu comme une enquête, au moment des répétitions, d'essayer de comprendre, de trouver des indices qui pouvaient nous renseigner sur la manière de Catherine de vivre les événements, la personnalité de Catherine, au-delà de ce qu'on raconte là, de l'histoire de Sébastien, de la mort et tout ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup lu le livre de Sylvia Plath qui s'appelle La cloche de détresse, qui raconte son passage à l'hôpital psychiatrique et qu'elle raconte avec un mélange d'humour, de distance et par moments évidemment d'effroi, de solitude, de perdition d'elle-même. Mais l'écriture, elle est très mordante, ça m'a pas mal aidée pour mon imaginaire personnel. Parce que justement, on pouvait avoir les deux côtés, c'est-à-dire que même dans un endroit, l'hôpital avec le médecin qui arrive pour faire une lobotomie, ben, tout d'un coup elle avait des sursauts, de voir la situation comme si elle n'en faisait pas partie. Et comme dans la pièce, Catherine n'arrête pas de dire « j'ai l'impression que je dois rêver, que tout ça n'est pas pour de vrai ». Enfin, voilà, moi, ça m'a pas mal nourrie. Ça. La toute dernière image, je me lève et je ne suis pas tout à fait au centre, un tout petit peu décalée. Voilà, ce moment où elle dit « je m'arrête, il faut que ce soit une vision pour que je puisse continuer ». J'ai cette sensation-là, moi, très forte, tout d'un coup, d'être entourée de blanc, puisqu'elle parle sans arrêt de la chaleur, de la fournaise blanche, du blanc tout autour, alors que je me retrouve dans le noir, en fait, je suis face publique à ce moment-là. Et ça, c'est un endroit, un équilibre pas facile à trouver, d'être suffisamment concret pour être en adresse aux gens et en même temps être pris dans cette vision un peu psychédélique de la fin. C'est un peu l'image du poète qui passe à travers elle, comme une vision un peu hallucinatoire, pour qu'on sache pas trop ce qui est de la part de ce qu'elle a vraiment vu, ressenti, ce qu'elle a projeté. Et ça, je n'avais pas cette image-là avant de travailler ce texte-là et cette pièce-là, je n'avais pas cette image-là de Tennessee Williams.
Votre attention, nous commençons dans 5 minutes. 5 minutes en scène, merci.
Merci Perrine Malinge. Stéphane Brunschweig, on a entendu ces deux actrices exceptionnelles, Marie Raymond et Luce Mouchel, nous parler de ce travail. J'imagine, comme c'est une pièce où, en fait, l'action est contenue dans les paroles. Ce sont les paroles. Trouver la note juste, comme le dit Luce Mouchel, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire les faire parler jusqu'à ce que vous, à l'oreille, vous sentiez qu'il y a une sorte de vérité. C'est pas très simple à expliquer, j'imagine.
Oui, et puis en plus, entre le premier jour de répète et le dernier, mon oreille, elle évolue aussi. Donc, les premiers jours, j'ai envie d'entendre quelque chose. Puis petit à petit, à mesure que le personnage naît ou se met en place ou que les actrices comprennent comment le prendre, à ce moment-là, je me mets à avoir envie d'entendre autre chose. Donc, en fait, c'est un travail un peu dialectique avec les acteurs et à la fois trouver ce que j'appelle la dimension du personnage, c'est-à-dire l'endroit où l'être tout d'un coup il est là et on voit plus du tout, on voit plus Luce, on voit plus Marie, on voit Mrs. Venable, on voit Catherine, et puis le travail de détail en fait qui est c'est vrai très minutieux parce que c'est vrai qu'à l'oreille, enfin Luce disait cherche la note, mais c'est vrai qu'à l'oreille tout de suite quand ça sonne un tout petit peu faux, je l'entends, donc j'ai une tendance à m'acharner jusqu'à ce que ça soit juste en fait. Mais au bout d'un moment, ça devient juste naturellement en fait. Ce qui est intéressant, c'est d'amener les acteurs à essayer d'entendre l'endroit où c'est juste, puis après ils y vont tout seuls, heureusement.
Et Luce Mouchel, on l'entend bien dans les extraits qu'on a passés, elle a aussi un débit très particulier, un peu mécanique. C'est vous qui lui avez demandé d'avoir ce ton de voix, ça exprime quelque chose de...
Non, je crois que c'est...
De l'enfermement, de...
C'est sa façon de faire, mais je voulais qu'elle soit... Enfin, souvent je lui disais, affirme, ne montre pas ta fragilité, donc affirme, bétonne, oui, donc peut-être que c'est ça qui a apporté ça, mais sinon c'est sa façon de prendre mes indications.
Et puis pour Marie Raymond qui joue Catherine, la folle, alors... Voilà, montrer qu'on est dérangé, mais pas jouer la folie.
Mais il faut se laisser porter par le texte. Je veux dire que Tennessee Williams, il en savait un rayon sur la folie. Entre sa sœur, sa mère aussi, qui a été en hôpital psychiatrique, et lui-même, qui se portait pas toujours très très bien. Il avait des grosses addictions, ouais. Donc ouais. Forcément, il en savait un rayon sur la folie. Donc je pense que le texte lui-même, il est l'œuvre de quelqu'un qui en sait long. Et si on suit le texte, si on se laisse porter, évidemment en l'incarnant, hein, il ne s'agit pas d'être le porte-parole, il s'agit d'incarner, mais chercher à incarner ce texte, ben forcément on touche à cette folie. Et il y a de la folie chez Mrs. Venable à travers ce déni qu'elle a de ne pas vouloir voir qui était son fils, et évidemment la folie plus traumatique de Catherine qui a vu une scène très traumatisante.
Alors, soudain l'été dernier, c'est donc au Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe, jusqu'au 14 avril. Ensuite, ce sera à Marseille, entre le 25 et le 29 avril. Et ensuite, au Piccolo Théâtre de Milan, en mai, donc en français, avec du surtitrage italien.
Voilà, ça sera pour fêter les 70 ans du Piccolo Théâtre. Et puis, il y avait des liens historiques, évidemment, entre le Piccolo Théâtre fondé par Strehler et le Théâtre de l'Odéon, également fondé par Strehler. Donc, on est très contents d'aller jouer à Milan. Moi, j'ai pas joué depuis longtemps, en plus. Donc, on va jouer le dimanche, le 14 mai, le jour des 70 ans. Il y aura Harlequin, serviteur des deux maîtres dans une salle, et puis soudain, l'été dernier, dans une autre.
Et alors, Stéphane Brunschweig, donc, les projets pour le Théâtre de l'Odéon, beaucoup de metteurs en scène étrangers qui viennent jusqu'à l'été.
Oui, on a notamment Deborah Warner qui va créer un spectacle de Come Toy Bean avec Dominique Blanc. Ça s'appelle Le Testament de Marie. Ça va commencer au mois de mai. Donc ça, c'est évidemment très attendu.
Adaptation d'un livre, donc.
Adaptation d'un roman de cet auteur irlandais. Et on va retrouver Thomas Ostermayer avec son Richard III qui avait triomphé à Avignon. Et puis, on va surtout découvrir Médée dans une mise en scène de Simon Stone qui est un jeune metteur en scène australien que j'ai associé à la programmation de l'Odéon et qu'on retrouvera notamment au mois de novembre avec une création à l'Odéon. Et puis dans le prochain programme, il y a aussi un spectacle qui est absolument formidable, que je recommande, qui est Songes et métamorphoses de Guillaume Vincent. D'abord, Guillaume Vincent est un metteur en scène extrêmement passionnant et il a monté Le Songe d'une nuit d'été, mais avec une sorte de prologue inspiré des Métamorphoses d'Ovide qu'il a écrit lui-même, qui est en même temps un hommage au théâtre. Et c'est un spectacle qui tourne déjà en France depuis pas mal de temps et qui reçoit partout un accueil fabuleux. Donc j'espère qu'on trouvera le même accueil à Paris.
Eh bien, il me reste à vous remercier, Stéphane Bringer, qui a souhaité bonne route à ce spectacle de Soudain l'été dernier. Et puis, à bientôt. Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Quand la lumière faiblit, ça ne vous dit rien, ça ne vous rappelle rien. On se retrouve ni mieux ni pire au bar. Quelque chose a enflé, quelque chose s'est creusé. Pour servir les cocktails de flatterie au venin. Quant à moi, merci bien, je ne bois rien. Que des liqueurs abstraites, produites à l'œil par magie blanche. Mais vous, vous reprendrez bien une petite coupe. De ci, nuit de là. Chantonne un cavalier mental. My rifle, my pony, and me. My rifle, my pony. Se retrouve ni mieux.
Unipi.
Eh bien, c'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers. Quant à nous, nous nous retrouverons dimanche prochain, aux environs de 14h, si vous le voulez bien. J'aurai le plaisir de recevoir le grand reporter Raphaël Kraft pour un documentaire sonore et un livre qui s'appelle « Passeur ». Qu'il a réalisé à la frontière italienne. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter, bien entendu.